Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le secrétaire d'État du Vatican rencontrait pour la première fois ce vendredi le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Lors de cet échange, Mgr Pietro Parolin a assuré que la paix n'était pas une utopie, encourageant, sur les traces du pape François, à construire une humanité fondée sur la fraternité. Le sapin de Noël, place Saint-Pierre, scintille désormais. Son illumination a eu lieu ce vendredi après-midi lors d'une cérémonie officielle en présence de pèlerins venus de Bavière. Ils avaient rencontré un peu plus tôt le Saint-Père. Témoignage dans ce magazine du cardinal Sara, le président du Conseil Pontifical Corunum s'est rendu au Liban dans le cadre du lancement d'une mission sanitaire en faveur des enfants syriens réfugiés dans le pays. Bienvenue dans ce magazine. Nous devons montrer que la paix est possible, qu'elle n'est pas une utopie, mais un bien concret qui vient de Dieu. Déclaration de Mgr Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, devant les membres du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. C'est la première fois que les ambassadeurs rencontrent officiellement le nouveau bras droit du pape, dont le visage ne leur est pas inconnu. Mgr Pietro Parolin a en effet été dans le passé sous-secrétaire pour les relations avec les États. Et ce vendredi matin, il leur a donné en français quelques pistes sur sa manière d'envisager sa fonction. Marie Duhamel.
Avec vous tous, je me sens amie, compagnon de voyage. Le ton est posé, chaleureux. Le tout nouveau secrétaire d'État assure les diplomates de sa disponibilité. Il souhaite collaborer à la recherche de la paix pour que dans le monde soit garanti le respect de la dignité de chaque être humain.
Nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance qui touche dramatiquement des êtres humains. Nous devons montrer que la paix est possible, qu'elle n'est pas une utopie, mais un bien concret qui vient de Dieu et que nous pouvons contribuer à construire grâce à notre engagement personnel et solidaire. Pour cela, il est nécessaire de travailler ensemble à l'établissement d'une véritable culture de la paix, en répondant courageusement aux défis qui mettent en péril une authentique coexistence entre les personnes et les peuples.
La fraternité, thème cher au pape et à son secrétaire d'État. La plus profonde aspiration de l'homme est le bonheur, explique Mgr Parolin. Tout homme, toute femme est créé pour la joie. Certes, elle n'est pas toujours évidente. Pourtant, dit-il, elle est bien présente dans le bien qui se fait chaque jour, dans la beauté de la nature, des personnes, mais pas seulement.
Elle se trouve aussi dans les avancées vers la paix et vers l'entente entre le peuple, aussi fragile et limitée soit-elle, car elle est la joie de la rencontre, la joie du partage, la joie du dialogue, la joie de la réconciliation. Voilà l'humanité que nous cherchons à construire ensemble. Une humanité qui soit une véritable famille, une humanité où le dialogue prend le pas sur la guerre pour régler les dissensions, une humanité où la force des puissants supplée la faiblesse du petit, une humanité où la force du faible remédie à la faiblesse du puissant.
Église et diplomates sont ainsi appelés à marcher ensemble car les hommes ont besoin de trouver sur leur route des personnes profondément humaines et fraternelles qui leur donnent une espérance pour l'avenir. Et pour le pape François, les chrétiens doivent être ces personnes. Le pape veut que l'Église annonce, témoigne, porte la joie. Une joie, explique Mgr Parolin, qui pour les chrétiens a son fondement en la personne de Jésus.
Le pape François saluait ce vendredi une délégation de pèlerins bavarois venus à Rome à l'occasion de l'inauguration du sapin de Noël sur la place Saint-Pierre, les remerciant pour ce don. L'arbre de 25 mètres de haut et de 7 tonnes en provenance de Bavière a été illuminé ce vendredi après-midi. Le pape a salué dans un sourire un arbre international puisqu'il a poussé aux confins de l'Allemagne et de la République tchèque. Ce majestueux sapin restera auprès de la crèche jusqu'à la fin des fêtes de Noël et sera admiré par les Romains, mais aussi des pèlerins et touristes venus du monde entier, a souligné le Saint-Père. Le pape François est attendu ce samedi matin au dispensaire pédiatrique de Sainte-Marthe, dans l'enceinte même du Vatican, où il rencontrera des familles et des bénévoles. Depuis le 8 mai 1922, cette structure vient en aide aux enfants pauvres, malades ou souffrant de malnutrition de la capitale italienne. Elle apporte un soutien médical et psychologique important, mais fournit aussi de la nourriture, du lait, des médicaments, des vêtements, des couches ou encore des jouets pour les enfants. Actuellement, le dispensaire accueille 270 familles. Cette année, plus de 3500 visites médicales y ont été réalisées, ainsi que 120 entretiens avec de nouvelles familles en provenance de tous les continents et de toutes les confessions. En se rendant au dispensaire en 2005, Benoît XVI avait indiqué que l'action de cette structure en faveur des enfants et des parents soulignait la vocation fondamentale de la famille à être le lieu premier et principal d'accueil de la vie. Le président du Conseil pontifical Corunum était la semaine dernière au Liban pour superviser le lancement de la mission sanitaire en faveur des enfants syriens réfugiés au Liban. Cette opération, sous l'égide du dicaster, aux côtés de l'hôpital Bambino Gesù de Rome et de la Caritas Liban, doit permettre de venir en aide à des milliers d'enfants dans la vallée de la Beka, à la frontière avec la Syrie. De retour de cette visite de 4 jours sur le sol libanais, le cardinal Robert Sarra a demandé aux différentes parties en conflit en Syrie de favoriser l'assistance humanitaire dans le pays et de cesser toute violence. Il décrit également des conditions de vie très difficiles dans les camps de réfugiés syriens au Liban et explique le sens de l'initiative en faveur des enfants.
Caritas Liban est en train de vraiment travailler pour qu'il y ait un soulagement réel porté à ces enfants syriens qui sont dans cette vallée de la Beka. Nous comptons au moins rejoindre 3 à 4 000 enfants et probablement, tant que la guerre continue, le nombre va augmenter. Naturellement, en dehors de la Beka, il y a d'autres enfants. S'il y a des besoins, nous devrons aussi nous en occuper. Mais aujourd'hui, nous pensons rejoindre à peu près 3 à 4 000 enfants.
Le problème de la vallée de la Beka maintenant, c'est aussi la température qui est sous la barre des zéros.
Effectivement, il y a le froid, il y a la pluie, et donc ces personnes ont besoin d'un peu de chauffage, d'habits chauds. Et nous veillons également avec Caritas Liban d'organiser comment chauffer les tentes. D'après ce que j'ai appris, ils ont essayé de mettre de l'étanchéité sur les tentes pour que la chaleur puisse rester dedans. Et surtout protéger un peu l'ambiance parce qu'avec la pluie, l'hygiène peut être un élément très négatif à l'œuvre médicale que nous apportons. Donc mettre un peu de propreté, d'hygiène, pour que les maladies ne puissent pas détruire ce que nous sommes en train de faire pour soulager les enfants.
Et du point de vue spirituel?
Je crois qu'il y a aujourd'hui une grande souffrance, mais également une grande ferveur pour le vie spirituelle. Les évêques syriens surtout ont dit que les gens prient beaucoup parce qu'ils n'ont que Dieu comme secours aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas une sagesse entre les hommes pour négocier la paix, ils ne peuvent compter que sur Dieu. Et les évêques s'emploient à encourager, à prier avec eux pour que ce secours vienne de Dieu. Il y a en tout cas une grande ferveur, un grand courage. Je peux dire également qu'il y a quelquefois des découragements et beaucoup de chrétiens syriens sortent et vont ailleurs. Et la grande peur des évêques, c'est de voir le Moyen-Orient vidé des chrétiens. Et donc, leur communauté va disparaître. Et donc le souci spirituel, c'est vraiment d'encourager les chrétiens à rester sur place. Mais c'est difficile de les obliger à rester sur place puisqu'ils cherchent la sécurité, ils cherchent également du travail. Et ces gens-là n'ont pas de travail. Et donc pour pouvoir vivre spirituellement, il faut aussi un minimum, n'est-ce pas, de bien-être matériel. Et donc c'est cette double action, soutenir spirituellement, mais en même temps faire face aux besoins matériels pour maintenir les Syriens chrétiens au moins sur place.
Le cardinal Robert Sarra, interrogé par notre consœur du programme italien Elvira Ragosta. De l'entendre, des milliers de Syriens réfugiés au Liban luttent actuellement contre le froid et la neige. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est mobilisé en coopération avec l'armée libanaise pour fournir des couvertures et de l'argent pour le chauffage. Mais il se dit préoccupé par la situation. Dans les régions montagneuses du Liban, dans la vallée de la Beka, ils sont des milliers à vivre sous des tentes. Marie Duhamel a joint par téléphone Kamal Soufi. Il coordonne l'aide d'urgence auprès des réfugiés pour la Caritas Liban.
Ils sont dans une situation vraiment dramatique et très lamentable parce qu'il y a une bonne partie des Syriens qui n'ont pas consolidé leur tente et qu'on n'a pas eu vraiment ni les moyens matériels, ni le temps de les aider à les consolider, ni à leur donner des moyens de confort pour le chauffage. Confort entre guillemets, parce que au moins de chauffage à poil. Donc, cette année-là, on a été pris au dépourvu. Une partie a été aidée, une autre partie reste sans aide. Durant la tempête, c'est très difficile d'aider, de se déplacer. Pratiquement, ce n'est pas le froid qui est le plus important, c'est surtout les inondations. Parce qu'une bonne partie de ces camps sont à un niveau qui est inférieur à celui de la route. Donc ce qui fait que toutes les eaux superficielles passent dans le camp. Et il y a un camp qui a été carrément inondé il y a quelques jours.
Ces réfugiés, quel est leur état d'esprit aujourd'hui? C'est de la colère? C'est un sentiment d'humiliation? Qu'est-ce qu'ils expriment?
Le problème principal au Liban, c'est le foyer. Il y a certainement d'autres problèmes, il y a des problèmes médicaux, d'éducation, etc. Mais au départ, dans cette situation-là, c'est le foyer. Il faut qu'il soit protégé. Donc actuellement, ils respectent certainement, ils veulent avoir un foyer, ils veulent avoir des tentes consolidées. Et nous, on a assisté déjà, nos équipes ont assisté à des agressions importantes de la part des réfugiés syriens. Et on les comprend, ce sont des êtres humains qui ont besoin d'aide et on n'arrive pas à leur apporter toute l'aide nécessaire, vu le nombre qui est en croissance continue et vu les moyens financiers qui sont très réduits par rapport à ce nombre-là. Et je compare toujours, moi, la situation quand on a vécu l'arrivée des réfugiés irakiens au Liban et celle des Syriens, c'est tout à fait différent. Avant, le nombre était très réduit et les aides financières étaient vraiment en abondance. Donc maintenant, c'est tout à fait différent. Et en plus, le gouvernement libanais ne veut pas s'impliquer. D'ailleurs, il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de gouvernement actuellement. Donc, même pas une coordination qui est faite au niveau de l'État. Contrairement à la Jordanie, où l'État lui-même tient tout le côté social, et c'est lui-même qui les regroupe dans des camps qui sont sécurisés, etc., aidés socialement par toutes les ONG.
Vous avez tout à l'heure évoqué le cas de l'Irak. Vous avez fait un parallèle en disant qu'il y avait beaucoup d'aide et peu de réfugiés, et que là, c'était un peu l'inverse. Est-ce que vous avez sentiment que la clé de lecture politique de la communauté internationale sur le conflit syrien influe aussi à la défaveur des réfugiés?
Généralement, je ne sais pas pourquoi ils créent des guerres, et ils sont en train actuellement de financer et la Syrie pour sa reconstruction, ils vont la financer, et les réfugiés pour leur donner à manger et à les aider. Moi, à mon avis, ce qu'il fallait faire, c'est d'arrêter la guerre avant tout, avant de réfléchir à les aider. Deuxièmement, ce qu'il faut faire actuellement, et ce qu'ils ne font pas, c'est que les Syriens qui peuvent rester en Syrie, dans les régions sûres de Syrie, doivent rester là-bas. Ils vont mieux parce que là, ils n'ont pas de quoi vivre. Ils ont beaucoup de problèmes à tous les niveaux et je ne vois pas quel serait leur avenir au Liban.
Kamal Soufi de Caritas Liban. Malgré la vive opposition de l'Église catholique et des autres confessions religieuses, le Sénat belge a adopté jeudi à une large majorité la proposition de loi étendant le cadre légal autorisant l'euthanasie aux mineurs atteints d'une maladie incurable. Les députés doivent maintenant se prononcer sur ce texte. Les représentants des grandes religions chrétiennes, musulmanes et juives avaient exprimé en novembre dernier leur opposition dans un message commun et leur vive inquiétude face au risque de banalisation de l'euthanasie. Les Les évêques de France prennent la parole à 3 mois des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Nous condamnons les discours populistes répandant la suspicion contre toute représentation politique, peut-on lire dans une déclaration du Conseil permanent de la Conférence épiscopale de France. Tout en rendant hommage aux hommes et aux femmes impliqués dans la vie municipale, ils font part de leur inquiétude face à la tendance à l'individualisme, à la perte du sens du bien commun et au rejet de l'autre quand il est différent ou quand il vient d'ailleurs. Souvent la peur puis la violence en sont les conséquences. Parfois même des personnes ont le sentiment qu'elles ne sont plus accueillies là où, il y a quelques années encore, elles avaient toute leur place, déclare-t-il, en encourageant les candidatures aux élections municipales de 2014 d'hommes et de femmes soucieux de tous, notamment dans les nouvelles générations. Écoutez Mgr Bernard Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Les élections municipales sont attendues, elles sont un rendez-vous très important. C'est peut-être d'ailleurs une des rares élections dont la participation électorale soit encore si forte. Il ne faut donc pas rater ce rendez-vous qui est un rendez-vous à la fois de démocratie mais aussi un rendez-vous très important pour les croyants. Et je crois que les évêques sont dans leur rôle quand ils jouent là un encouragement, quand ils signifient toute l'importance qu'ils attachent à cette vie locale. Je me permets de rappeler que les évêques font énormément de visites pastorales et quand ils sont en visite pastorale, ils ont très souvent des contacts avec les équipes municipales et donc ils sont très au fait de la situation qui se déroule aujourd'hui dans les villages et dans les villes.
Concrètement, vous attendez quoi d'un élu ?
Le nouvel élu, évidemment, il ne pourra pas tout. C'est évident, ce serait illusoire de tout attendre d'un maire. Et on a peut-être tort, d'ailleurs, parfois, de tout attendre du maire d'une commune. Mais en même temps, il est l'homme de, ou la femme de la communion. Il doit aussi être animé par des valeurs profondes. Nous avons des valeurs à défendre envers les plus petits, mais aussi envers la famille, envers la manière de vivre, envers l'accueil du handicapé, envers des choix aussi, des choix financiers dans la commune aujourd'hui qui sont de plus en plus délicats parce que, étant donné la crise budgétaire, étant donné le besoin de vivre beaucoup de choses à l'échelle intercommunale, il faut que l'élu soit intègre, il faut que l'élu soit quelqu'un qui soit animé par un service des autres, mais il faut encourager ceux qui demain seront candidats parce que nous constatons aussi une grande désaffection. Il y a aussi tous ceux qui, parce que cette charge est très complexe, envisagent de ne plus se représenter. Et donc, il y a aussi une fonction que l'Église doit avoir de redonner une noblesse à la politique.
S'il y a un appel, c'est peut-être aussi car il y a une inquiétude. Vous parlez d'une tendance à l'individualisme, à la perte du sens du bien commun. C'est une inquiétude réelle que vous observez ?
Oui, absolument. L'inquiétude est réelle. Elle est explicable parce qu'il y a la crise, il y a le risque du repli sur soi. Il y a aussi des peurs qui peuvent être plus ou moins fondées. C'est quand même une peur de l'avenir, il y a une peur de l'autre dans sa différence. Et il faut donc à la fois comprendre ces peurs, essayer de les accompagner et tout faire pour que l'ensemble de nos concitoyens n'aillent pas dans l'individualisme, dans le repli, dans le rejet, mais vivent vraiment le projet municipal comme une occasion très grande de créer quelque chose de meilleur.
L'autre crainte qui fait, elle, plutôt la une des autres médias français nationaux, qui est cette condamnation des discours populistes. On lit tout de suite dans les titres que vous tirez la sonnette d'alarme contre la montée du populisme. C'est aussi une crainte réelle, les discours populistes, plutôt cette année ?
Oui, il faut être très franc. D'ailleurs, le populisme, ici, est une expression dont les évêques usent pour recouvrir toute une série de populisme. Hein. Il y a plusieurs facettes au populisme. Le populisme, ça peut contenir énormément de réponses fausses, de réponses qui sont des impasses à toutes les peurs dont je viens de parler. Il faut prendre le temps d'être avec les gens pour comprendre vraiment la réalité de leurs souffrances, de leurs angoisses. Et les populismes qui sont de multiples formes, il faut absolument vraiment dire à quel point ils sont des impasses. Et c'est là qu'il faut que se rassemblent tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui cherchent des intérêts vraiment communs de la cité. Et donc cette déclaration était vraiment nécessaire. Et elle est rédigée en amont de la campagne pour qu'il n'y ait pas de récupération, que la parole de l'Église soit bien libre.
Mgr Bernard Potvin, interrogé par Antonino Gallofaro, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.